Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 34e épisode, je reçois Angélique Lefort qui est consultante parentale. Après avoir exercé son métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant 15 ans, elle l'a fait évoluer pour accompagner les familles dans leur ensemble. Cet épisode, le dernier de la saison 1, se découpe en deux parties. Dans la première partie que voici, Angélique nous parle de la séparation des parents. Dans la deuxième partie, vous retrouverez Angélique pour aborder la recomposition de la famille. Dans cette première partie, elle nous donne des pistes sur quand et comment parler de la séparation avec notre enfant. Elle nous détaille les émotions qu'ils peuvent ressentir et comment nous pouvons les détecter quand ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, mais également comment les accompagner. Elle nous indique les différents modes de garde qui peuvent être mis en place en fonction de la situation familiale et nous indique comment conserver des échanges entre parents même lorsque l'entente est difficile, car la communication reste la clé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Avec plaisir.
Avec toi, on va parler d'un sujet un peu sensible qui sont les séparations et recompositions de famille. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, qui tu es, quel est ton métier, s'il te plaît?
Alors, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. Ça veut dire que j'ai travaillé principalement en crèche auprès des enfants et en tant que directrice pendant une quinzaine d'années. Et depuis 4 ans maintenant, je suis consultante parentale. Ça veut dire que quand je suis devenue maman, je me suis rendue compte que quand on était parents, on rencontrait pas mal de questions et de difficultés autour de cette parentalité, même quand on est professionnel. Et du coup, voilà, je me suis centrée sur cette parentalité, sur la mienne déjà. Et puis ensuite, j'ai voulu en faire vraiment encore plus ma mission quotidienne. Donc, c'est ce qui fait mon travail aujourd'hui. Donc, je suis consultante parentale. Ça veut dire que j'accompagne les familles quand elles traversent des difficultés ou des questionnements autour du comportement de leur enfant ou d'une situation particulière qu'elles sont en train de traverser. Donc, je fais des accompagnements soit en individuel, soit en collectif autour d'animation de groupes d'échange entre parents ou de conférences.
C'est intéressant. Alors, je rebondis avant qu'on attaque.
Même quand on est un professionnel de la petite enfance, quand on a soi-même des enfants, ça reste compliqué.
Et oui, parce qu'en fait, on n'est plus professionnel, on est parent. Donc, on est d'abord parent avant d'être professionnel. Et du coup, évidemment que cette casquette, oui, il y a plein de choses au niveau technique qu'on maîtrise plus facilement. L'échange de couches, etc., les soins, tout ça, voilà, on est un peu plus à l'aise, évidemment. Mais tout ce qui est autour de la relation et de l'affect, ça, on ne s'y est pas préparé hein, quand on devient parent. Donc, c'est aussi compliqué quand on est pro, tout à fait.
Non, mais c'est un peu rassurant quelque part pour nous, simples parents, de se dire que même les pros, parfois, ils galèrent.
Oui, oui, tout à fait.
Ok, ça marche. Bon, alors, si on attaque sur le sujet de la séparation et de la recomposition, ma première question, c'est lorsqu'un couple a pris la décision de se séparer, quand et comment on l'annonce à l'enfant ? À quel moment ? Est-ce qu'on le fait au moment où on a décidé ? Est-ce qu'on le fait au moment où l'un des deux parents quitte le domicile conjugal ? Parce que parfois, entre le moment où on décide et le moment où il y a la séparation physique des parents, il peut se passer un laps de temps, le temps qu'on ait vendu la maison, le temps qu'on ait retrouvé un logement, etc. Quel est le moment le plus propice pour l'annoncer aux enfants ?
Alors, je pense que les parents peuvent parler à leur enfant à tout moment de la situation familiale qu'ils traversent. En fait, souvent, les parents ont l'impression de devoir annoncer effectivement une mauvaise nouvelle aux enfants. En fait, les enfants, ils le savent déjà. Ils savent déjà que la situation, elle est tendue depuis un moment, voire un long moment. Ils ressentent, ils observent les tensions, ils entendent les conversations des parents. Potentiellement, ils ont peut-être même déjà posé des questions. Donc, j'ai envie de dire, finalement, on n'a pas tant une annonce à faire que ça. L'idée, c'est plus de se dire qu'on va communiquer avec ses enfants au fur et à mesure que la situation évolue. Quand il y a eu un événement particulier, quand il y a eu une grosse dispute entre les parents, quand il y a eu une décision de prise entre les parents ou quand il y a une réflexion autour d'une décision à prendre et que peut-être on a envie aussi de solliciter l'avis des enfants, par exemple. Disons que je pense que quand il y a un événement majeur qui va arriver, donc c'est vrai que souvent on va identifier par exemple le moment où un des parents quitte le domicile familial, c'est important d'en parler aux enfants, évidemment. Peut-être pas forcément en parler trop tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'évoquais, on dépend aussi de la vente d'un appartement ou de choses comme ça, dire à son enfant de 3 ans, par exemple, « Papa va aller habiter ailleurs », alors qu'en fait, on n'a pas encore signé le compromis de vente et que du coup, a priori, papa, il va encore rester dans la maison pendant 3 ou 4 mois minimum. Bon, pour un enfant de 3 ans, c'est un petit peu compliqué du coup de se projeter, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est vraiment, comme pour toute situation, d'ajuster son discours en fonction de l'âge de son enfant, en fonction de ce qu'on connaît de lui et puis surtout en fonction de soi, ce qu'on estime avoir besoin de partager aussi avec son enfant. Et puis, c'est de lui donner des informations qui vont être concrètes surtout sur l'évolution de la situation, mais aussi du coup d'être à l'écoute des émotions que lui, ça va lui susciter, que lui va exprimer.
Ça veut dire que s'il y a une phase où les parents ont décidé de se séparer et par exemple font chambre à part à la maison, c'est intéressant de prévenir l'enfant de ça sans pour autant lui parler de ce qui va arriver après.
Alors encore une fois, on va s'ajuster en fonction de l'âge de l'enfant. Quand on a un ado de 15 ans, il va être plus en capacité de comprendre que oui, si on fait chambre séparée, a priori il va y avoir séparation à un moment donné. En tout cas, c'est quand même tendu. Si on a un enfant de 2, 3 ou 4 ans, ce lien de cause à effet, pour lui, il n'est pas forcément logique. Et puis, en plus, de toute façon, il n'est pas forcément, c'est pas forcément ce qui va se passer. On peut faire chambre à part pendant des semaines et des mois et finalement se retrouver et ne pas se séparer. Mais effectivement, c'est important de pouvoir parler de chaque situation au moment où elle se présente sans trop l'anticiper. J'ai envie de dire que pour les jeunes enfants de moins de 6 ans, on va parler des événements quand ils vont arriver dans les quelques semaines qui arrivent.
D'accord. Et quels mots on choisit ? Est-ce que les mots ont de l'importance ? Est-ce que la manière dont on s'installe pour en parler a de l'importance? Est-ce qu'il faut en faire un événement quelque part? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on parle comme ça à table ou...
Je pense que dans ces situations-là, il n'y a pas vraiment de « il faut ». Chacun fait comme il peut et comme il arrive à gérer à ce moment-là. Faut vraiment avoir conscience que cette prise de décision d'une séparation d'un couple et donc l'incidence que ça va avoir sur la vie de famille, c'est une décision qui est difficile. C'est une décision qui est difficile à prendre, mais qui est difficile à assumer aussi. Et quel que soit le parent concerné, c'est-à-dire que c'est aussi difficile à vivre pour le parent qui a pris cette décision, pour le parent qui décide de quitter le domicile. Voilà, c'est aussi difficile pour ce parent. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleure manière. Il y a la manière dont le parent se sentira le plus à l'aise pour en parler. Et s'il a besoin d'être à table et d'en parler, comme on dit, entre la poire et le dessert, bah effectivement, c'est que ce sera le moment le plus opportun. De ce que j'ai pu observer et entendre comme retour d'expérience, c'est vrai que souvent, les parents, en tout cas, apprécient être à deux, être tous les deux présents.
C'est ce que j'allais demander. Est-ce que c'est intéressant que les deux parents soient présents pour en parler?
Oui et non. C'est-à-dire que si c'est très conflictuel entre les deux parents et que c'est difficile d'aborder le sujet sans que ça reparte dans des mots pleins d'agressivité ou pleins de conflits, eh ben, vaut mieux en parler séparément.
D'accord.
Il n'y a pas une recette. Il va y avoir vraiment une sensibilité à avoir à la fois envers son enfant, mais surtout ne pas s'oublier soi et de se dire, et moi dans tout ça, qu'est-ce que je me sens prêt à dire, à partager et à communiquer aujourd'hui? Et comment je me sens de le faire? Voilà, quelque chose qui va vous ressembler et qui sera le plus adapté à la fois à vous et votre enfant à ce moment-là. C'est un moment difficile de toute façon. C'est une étape qui est difficile à traverser. Voilà, il y a quand même une phase de digestion et une phase de deuil hein, à traverser. Quelle que soit la place du parent et son degré de décision, c'est difficile pour tout parent à traverser, que ce soit pour l'histoire de son propre couple déjà, pour la vie de famille et pour les incidences que ça va avoir, ouais, tout à fait.
Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure des émotions de l'enfant et de les accueillir justement. Quelles sont les émotions qui reviennent le plus souvent chez les enfants à ce moment-là? Et comment on fait quand on est dans cette phase difficile en tant qu'adulte pour accueillir les émotions des enfants?
C'est une étape qui est vraiment pas facile parce que bah déjà, soit en tant que parent, on déborde d'émotions et on est un peu, on va dire, hypersensible. Et en plus, on doit effectivement, évidemment, accueillir les émotions de son enfant. Alors, quelles sont les émotions qu'il va traverser? Il peut en traverser plein. L'enfant, il va se sentir... Enfin, il peut se sentir triste, évidemment, de cette nouvelle et du changement et du deuil hein, qu'il va falloir faire de cette vie de famille d'avant. Il peut se sentir en colère aussi. Alors, en colère contre un de ses parents, contre les deux parents, contre lui-même aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête en tant que parent. Beaucoup d'enfants se sentent en colère contre eux, se sentent coupables, se sentent responsables de cette séparation en associant des épisodes ou des situations de leur vie quotidienne. Voilà, en se disant... Bah, c'est parce que j'ai pas été sage ce jour-là que les parents ils se sont disputés, donc c'est à cause de moi qu'ils se séparent. Voilà. Donc, des fois, il peut y avoir un peu un amalgame entre les émotions et les situations vécues. Et puis, il peut avoir évidemment peur hein, du changement, de la suite, de ce qui va se passer, est-ce qu'il va continuer de voir ses deux parents? Est-ce que ses deux parents vont continuer de l'aimer, lui? Ça, c'est vraiment quelque chose que dont je me suis rendu compte personnellement aussi, parce que je suis aussi passée par ces étapes-là en tant que maman, quand j'ai compris que mon fils pouvait se dire « Mais finalement, si tu n'aimes plus papa, ça veut dire que peut-être moi aussi, tu peux ne plus m'aimer. » Je pense qu'en tant que parent, on ne se projette pas forcément dans cette représentation-là. Et en même temps, quand on se le dit, on se dit « Bah oui, effectivement, ça veut dire que l'amour peut se terminer. » c'est essentiel à ce moment-là d'essayer de rassurer son enfant sur cet amour parent-enfant qui, lui, est inconditionnel et qui, lui, ne s'éteindra jamais. Et moi, j'aime bien faire la distinction entre mon amour, qui est mon enfant, voilà, cet amour de filiation, et mon amoureux. Et du coup, pour les enfants, ça permet aussi de distinguer deux mots et deux types d'amour différents. Et l'amour entre amoureux, bah oui, des fois, il peut se terminer. Mais mon amour et l'amour de ton papa envers toi et de toi envers tes parents, celui-là, il ne mourra jamais. En tant que parent, pour pouvoir accompagner ça et être à l'écoute de cette émotion-là et de ce ressenti, et de pouvoir dire à son enfant, oui, papa et moi, on ne s'aime plus, mais toi, on t'aimera toujours. Il y a un super livre parle de ça aussi, sans forcément parler des enfants, des parents séparés. Mais c'est Mon amour d'Astrid Desbordes et Pauline Martin. Et c'est vrai que ce livre, il est vraiment super et il se prête bien aussi à cette situation de famille séparée.
Est-ce que c'est intéressant, du coup, même quand on n'est pas en séparation, ni en phase de séparation, ni même en envisageant une séparation, de faire cette distinction-là auprès des enfants?
Je trouve que c'est intéressant de pouvoir effectivement transmettre, surtout que des fois, il y a un peu de jalousie, on y reviendra, entre un enfant qui veut s'accaparer la maman et puis en même temps, du coup, qui peut être jaloux du papa parce que lui aussi, il a l'amour de maman. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve que ça peut être aussi rassurant de se dire, mais vous n'avez pas le même amour, en fait. Enfin, j'ai pas le même amour pour papa et j'ai pas le même amour pour toi. Voilà, c'est deux sortes d'amour différents, sans forcément non plus mettre l'accent sur celui d'avec papa, il peut s'éteindre.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais du fait que potentiellement, les enfants, ils peuvent se sentir coupables de la séparation des parents. Comment ça peut s'exprimer chez eux, ou ne pas s'exprimer? Et du coup, est-ce que c'est intéressant de leur en parler quand même si eux, ils n'expriment rien?
Effectivement, là par rapport à ta question, il y a deux points que je vais soulever. Le premier, c'est qu'effectivement, parfois, les enfants peuvent paraître sans réaction. Ça ne veut pas forcément dire sans émotion, mais en tout cas, ils peuvent ne pas montrer grand-chose et voilà, donner l'impression que ça ne leur fait rien. Ce n'est sûrement pas le cas, mais en tout cas, il n'y a pas de réaction ou de comportement majeur. Il y a des enfants aussi, d'ailleurs, qui peuvent être soulagés hein, d'une annonce de séparation. Alors, c'est vrai que c'est plus souvent quelque chose qui peut être montré ou exprimé chez des enfants un peu plus grands, à partir de 8-10 ans, par exemple, parce qu'ils ont un peu plus conscience de la situation et qu'ils ont plus de capacité d'analyse. C'est quelque chose qu'on peut aussi entendre d'enfants. Par rapport à ce point sur la culpabilité, comment elle peut se voir et s'exprimer chez les enfants? En fait, encore une fois, évidemment, ça va dépendre de l'âge, hein, mais chez les plus jeunes, ça peut se montrer par des comportements inadaptés, par des comportements difficiles, par un enfant qui va avoir une tendance à avoir des comportements plus agressifs, qui va avoir tendance à taper, à s'opposer, à s'affirmer, à être beaucoup, voilà, de s'opposer et de montrer qu'il est là et qu'il n'est pas d'accord et qu'il n'est pas content. Donc ça peut être une façon d'exprimer de manière complètement inconsciente cette culpabilité ou cette colère, hein, d'ailleurs. Et puis, ça peut aussi se montrer par un comportement de repli, peut-être même de régression. Enfin, voilà, il va pas forcément y avoir un comportement type. Par contre, ce qui va servir d'alerte aux parents, c'est le changement de comportement. C'est là, mon enfant, il n'est pas comme d'habitude. C'est là, mon enfant, c'est pas celui que je connais.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais du livre « Mon amour ». Est-ce qu'il y a d'autres livres qui sont particulièrement bien pour accompagner les enfants pendant cette période?
Il y en a de plus en plus, on va dire, qui parlent du sujet de la séparation, des familles recomposées, etc. Je connais le livre « Chez papa et chez maman » que je trouve assez accessible pour bien parler dès le plus jeune âge, vraiment autour de 2 ans, de la garde alternée, de « je vais avoir 2 maisons » et puis les règles de vie différentes. Enfin, voilà. Il y a le livre « Mon papa » d'Anthony Brown, qui n'est pas forcément spécial pour les familles, pour les parents séparés, mais qui est d'autant plus approprié quand l'enfant il est chez maman et qui pense à papa ou l'inverse. Donc, il y a les deux versions. Hein. Il y a le livre « Mon papa », il y a le livre « Ma maman ». Et puis, moi, j'ai découvert justement, en préparant cet enregistrement, les aventures de Bululu. C'est Ariane Warlin, ou Barlin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui les a écrits. En fait, c'est plein d'épisodes. Il y a Bululu est fâché, il y a le nouvel amoureux de maman. Enfin, voilà, il y a plein de petites aventures. En fait, c'est une maman qui s'est retrouvée séparée du papa et qui a voulu en parler avec des livres à son enfant, entre autres, et qui s'est retrouvée un petit peu voilà, au dépourvu de livres et qui a créé ses propres livres, du coup. Plus largement, j'ai envie de vous dire, l'idée, ce n'est pas forcément de cibler les livres sur le thème des familles séparées, mais plus d'aller sur les émotions, la vie de famille, la séparation, les retrouvailles, le chagrin, les rires, enfin, voilà, quelque chose qui va prendre vraiment l'enfant dans sa globalité. Oui, il y a ce changement-là, oui, il y a cet impact sur sa vie quotidienne, il y a cette caractéristique dans cette vie de famille, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que je trouverais dommage de mettre la lampe torche uniquement sur cet aspect-là de la vie de l'enfant, alors que c'est un des aspects de sa vie quotidienne, mais c'est pas le seul, quoi.
Ok, ça marche. Une fois que les parents ont décidé de se séparer et que physiquement il y a une séparation, donc un changement d'habitat, est-ce qu'il y a un mode de garde qui serait plus favorable à la sécurité affective des enfants ? Et j'imagine que ça varie aussi en fonction de l'âge.
Et oui, tout à fait. Alors, c'est toujours un sujet très compliqué, cette répartition de la garde de l'enfant. Déjà, parce que si les parents se séparent, c'est que voilà, la situation ou la relation n'est pas forcément très harmonieuse, voire très conflictuelle. Et donc, c'est encore plus difficile de s'accorder sur la répartition du temps de garde de l'enfant. Et souvent, c'est vrai que la mise en place de la garde alternée à 50-50, donc de manière 100% équitable, elle répond plus aux besoins des parents d'équité, justement, d'égalité, de voilà, j'aurai mon enfant autant de temps que toi, et elle n'est pas forcément centrée sur les besoins de l'enfant et le bien-être de l'enfant sur un premier plan. Aussi, ce critère-là qui est pris en compte, et qui rentre en ligne de compte en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'organisation de la garde de l'enfant, elle va dépendre de beaucoup de critères. Elle va dépendre déjà de la résidence de chacun des parents. Est-ce qu'ils sont dans un périmètre géographique restreint ou est-ce qu'ils sont à des kilomètres et des kilomètres l'un de l'autre ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas envisager une garde à 50-50 s'il y a un parent à Paris et l'autre à Marseille. Donc voilà, donc c'est vrai que pour cette garde alternée en 50-50, en tout cas, il y a ces différents paramètres à prendre en compte, la localisation géographique, l'école ou en tout cas la crèche, le mode de garde, et puis on va dire l'entente entre les parents. On peut faire une garde alternée et entre guillemets se voir le moins possible. Quand son enfant il va à l'école, il peut y avoir un parent qui accompagne son enfant à l'école le matin, c'est l'autre parent qui le récupère le soir jusqu'à la semaine prochaine et les parents ne se sont pas vus. Le lieu de passation, comme on dit, on n'est pas forcément obligé de se voir pour passer. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. C'est que, j'ai envie de dire, il y a énormément de pratiques dans la répartition du temps de garde. Il peut y avoir une semaine sur deux. Il peut y avoir une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir. Il peut y avoir une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir. Il peut y avoir, enfin, déjà ça, il peut y avoir beaucoup de variantes. On peut, en tout cas pour les plus jeunes, réfléchir à qu'est-ce qui va être au plus près des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que pour les petits, c'est toujours difficile de donner des grandes règles comme ça, mais on va dire pour les moins de 4-5 ans, voire 6 ans, une semaine, ça peut paraître long sans l'autre parent. Donc, des fois, on peut envisager un mode de garde où on va alterner deux jours avec le parent, deux jours chez l'autre, et ensuite cinq jours chez l'un, cinq jours chez l'autre. Pourquoi on dit 2-2-5-5 ? Un enfant, par exemple, va faire lundi-mardi chez papa, mercredi-jeudi, vendredi-samedi-dimanche chez maman, lundi, mardi chez papa, mercredi, jeudi chez maman, vendredi, samedi, dimanche chez papa, lundi, mardi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit 2-2-5-5.
Ok, oui, ça permet de garder cette alternance d'un week-end sur deux et d'avoir un temps équitable entre les deux parents, et pour autant que ce ne soit pas trop long pour les petits-enfants.
C'est ça. Des fois, une semaine, ça peut paraître un peu long, et on sent d'ailleurs en tant que parent que les deux derniers jours, ils tirent un peu, quoi. Le comportement de l'enfant change, il devient plus difficile, des fois, ça a des incidences sur le sommeil. Donc, il n'y a pas un mode de garde idéal, c'est vraiment à ajuster en fonction des différentes caractéristiques de la famille.
D'accord.
Parce qu'on a beau être une famille séparée, on reste une famille. Donc, voilà, c'est des choses à idéalement à discuter ensemble. Et si la discussion n'est pas possible et si une décision dans le compromis est difficile à trouver, autorisez-vous surtout à solliciter une médiation familiale, à saisir le juge des affaires familiales qui sont clairement là pour ça et qui vont pouvoir aider à écouter déjà les demandes de chaque parent, observer les besoins, voire écouter les demandes de l'enfant ou des enfants, et ensuite statuer pour une décision que lui estimera la meilleure. Mais voilà, des fois, moi, j'entends des parents qui me disent « Ah non, mais de toute façon, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à décider. » Vous n'êtes pas seul. Vraiment, c'est difficile des fois d'aller solliciter une ressource extérieure ou de se dire « Oh là là, mais il va falloir que je sollicite, que je saisisse le JAF, le juge aux affaires familiales. » Bah, oui, parfois, ça peut permettre justement d'aider les parents à donner un cadre autour de cette garde de l'enfant en sortant du conflit et du face-à-face. Il y a du coup là quelqu'un d'autre qui vient faire tiers et qui vient aider à prendre une décision.
D'accord.
Voilà, il n'y a pas un mode de garde idéal. L'idée que beaucoup de parents ont encore en tête de l'enfant va rester en résidence principale chez sa maman et ira chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Mmh. Et c'est important de s'autoriser à envisager qu'il y ait un champ des possibles large à partir du moment où on s'autorise à le penser ensemble.
Ouais.
Des fois, il faut vraiment aussi se laisser le temps de tester, de mettre en pratique, de se donner quelques semaines, quelques mois en fonctionnant d'une manière, et puis de se dire, bah oui, mais là, finalement, tu vois, quand on change de garde le dimanche soir, en fait, c'est difficile parce qu'en sortant du week-end, du coup, ça nous fait un peu speeder, etc. Peut-être qu'il vaudrait mieux changer de garde le lundi matin en le déposant à l'école. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ce soit plus confortable pour tout le monde au niveau du moment de passation, par exemple. Voilà, donc c'est aussi se laisser le temps de vivre tout ça. Mais c'est pas parce qu'on envisage un plan A qu'il n'y aura pas un plan B et un plan B prime.
Ok. À partir de quel âge on considère que les enfants ont leur mot à dire sur le mode de garde ?
Je pense que les enfants ont leur mot à dire dès qu'ils ont leur mot à dire. Okay. Et j'ai envie de dire, même avant qu'ils aient des mots, ils ont leur mot à dire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il y a une nuance à faire entre donner son avis et être l'avis qui va décider.
D'accord.
À mon sens, on peut demander à son enfant son avis sur une situation avec quand même une précaution de la manière dont on lui demande son avis. Ce n'est pas « est-ce que tu aimes plus papa ou maman ?» ou « est-ce que tu aimes plus… » Voilà, attention à ce qu'on va lui demander. De ne pas rendre responsable un enfant de son mode de garde. Enfin voilà, il y a quand même des précautions à prendre par rapport à cette communication-là. Mais on va dire que globalement, je pense qu'on peut lui demander son avis et le prendre en compte pour la décision que les adultes vont prendre. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être transparente avec les enfants là-dessus, que ce soit autour de ce sujet-là ou de plein d'autres d'ailleurs, en leur disant « J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ça va m'aider à moi prendre la décision, mais c'est quand même moi qui prendrai la décision finale. » Et je pense que ça, c'est vraiment important pour les enfants, pour aussi les déresponsabiliser de cette prise de décision. Mmh. Voilà. Après, leur demander leur avis, j'ai envie de dire, ça dépend à quel sujet. attention à la force des questions qu'on va pouvoir leur poser. Et des fois, on leur demande leur avis sur des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer au niveau des impacts, au niveau des conséquences, au niveau de leur vie quotidienne, au niveau de plein de choses. Donc, des fois, ils vont répondre un petit peu comme ça, spontanément, mais un enfant même de 8, 9, 10 ans, il ne va pas forcément être en capacité comme les adultes, et même parfois les adultes, il leur manque aussi des éléments, pour pouvoir se dire, ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que si je décide ça, ça veut dire que l'impact et les conséquences sur moi, sur mes parents, sur l'environnement, ça va être tout ça. Vous vous rendez compte la capacité d'analyse qu'il faut derrière? Donc, je pense que c'est important d'en parler. C'est important de dire à son enfant, ben voilà, moi, j'aimerais bien faire comme ça. Toi, t'en penses quoi? Mais j'ai envie de dire, en essayant d'y mettre le moins de gravité possible.
Ça marche. Et est-ce que c'est important que dans une fratrie, il y ait le même mode de garde pour tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que c'est important que les frères et sœurs, quand ils sont des mêmes parents, hein, ils aillent tout le temps ensemble, en même temps, chez papa, chez maman, ou chez le premier parent, chez le deuxième parent, dans le couple, dans le cas de couple homoparentaux?
Je pense que par rapport à ça, le choix, en fait, souvent, il se fait pour un côté pratique, hein, des parents. D'ailleurs, souvent, on ne se pose pas forcément la question. Un parent va prendre les deux enfants sur une période donnée, et puis on n'envisage pas de les prendre à tour de rôle. En général, on commence à l'envisager soit quand il y a un enfant qui montre un peu de réticence, soit quand il y a des besoins spécifiques d'un enfant. Enfin, voilà, quand il y a une situation donnée, quand il y a un comportement spécifique, quand il y a quelque chose qui va nous dire « Ah, finalement, peut-être que lui, il est en train de nous montrer qu'il n'a pas forcément les mêmes besoins que son frère ou sa sœur. » Et je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est de se dire « Ça ne sert à rien d'y aller au forcing. » Et si on peut ajuster le mode de garde en fonction de ce que va nous montrer chacun des enfants ou en fonction des besoins de chacun des enfants, parce que j'en sais rien, moi, il y en a un au collège, l'autre au lycée, et puis bah, le collège, il est à côté de chez maman, mais le lycée, il est à côté de chez papa. Bon, bah, finalement, les enfants sont répartis d'une autre manière. Je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais c'est vraiment, je pense, en tant que parent, c'est de s'autoriser à ce que justement, on puisse faire bouger les choses et qu'on ne reste pas dans un protocole figé et fermé parce qu'il faut faire comme ça ou parce que c'est mieux de faire comme ça. Je pense que le mieux, c'est ce qui va permettre à chacun de s'y retrouver et que ses besoins soient le plus satisfaits possible.
Ok. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du fait que quand on est séparés, on n'est pas obligé de se voir en tant que parent. On peut faire des transitions à l'école. Comment on fait? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il y a comme solution qui existe pour continuer à communiquer sur ce qui se passe avec les enfants, avec l'autre parent, quand on n'a pas la possibilité ou pas envie de le voir? Parce que malgré tout, on reste deux parents. Souvent, l'autorité parentale est partagée, quel que soit le mode de garde. Et donc, il y a des informations qu'il est nécessaire d'échanger avec l'autre parent. Comment on fait pour garder cette communication-là quand on n'a plus envie de se parler?
Tout à fait. Et merci beaucoup d'aborder cette question. C'est une question que j'aborde obligatoirement en général quand je fais un accompagnement de famille en cours de séparation ou séparée ou dans des conférences sur le sujet. Parce qu'effectivement, c'est dur de continuer de communiquer alors que justement, on n'arrivait plus à communiquer. En général, c'est un peu ça qui s'est passé. Je pense, c'est encore une fois, c'est mon avis en fonction des retours des familles que j'ai pu accompagner, de mon expérience, de ce que j'ai pu lire, observer, etc. Je pense que quand la relation est tendue, voire très tendue, il vaut mieux essayer de se limiter à la communication factuelle indispensable qui concerne l'enfant. C'est-à-dire qu'on va se transmettre les informations concernant sa vie quotidienne, concernant l'école, concernant sa santé, concernant... voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour des échanges par SMS quand la relation est un petit peu tendue, parce que ça peut être interminable, les échanges par SMS. Mmh. Moi, je suis plutôt pour les échanges par mail. Un sujet, un mail. L'école est fermée telle date, il y a un mail. il a fait une gastro, il a eu 38 de fièvre, voilà, hop, je fais un mail. C'est justement le jour de la passation, j'ai eu mon enfant pendant une semaine et donc là, c'est le papa qui va l'avoir. On a convenu ensemble qu'on se faisait un mail récap de la semaine de l'enfant. Je fais un mail, mais pas en disant « on s'est éclaté toute la semaine, je lui ai payé tel truc, il a adoré jouer avec moi ». Voilà, on ne va pas aller là-dedans. Enfin, je ne vous le conseille pas, en tout cas. Mais plus aller dans « il a un peu toussé cette semaine, je lui ai donné du Doliprane tel jour, il a plutôt bon appétit en ce moment, le sommeil, ça se passe bien, il a juste fait un réveil telle nuit, machin ». Pour l'école, mardi à carnaval, il doit emmener un déguisement. Et ce n'est pas « pense à lui mettre un déguisement dans son cartable ». C'est « il doit emmener un déguisement ». Stop. On essaye de rester dans une communication factuelle, centrée sur l'enfant, sa vie quotidienne, ses besoins. Et on fait le tri. Et au début, ce n'est pas forcément facile. Dans voilà, l'animosité, les conseils, voilà, tous les mécanismes qui étaient peut-être présents auparavant. Et puis, il y a, il y a une appli, et je pense qu'il y en a plein, mais moi, j'en connais une, qui est super pour justement gérer le planning de garde, gérer le cours de karaté, le cours d'éveil musical, les soirs à l'étude, voilà, etc., etc., etc. Le rendez-vous chez le pédiatre, chez le dentiste et l'anniversaire chez Raphaël. C'est l'appli qui s'appelait avant Côte, c'est 2OT, et qui s'appelle maintenant Shared. Donc, ça s'écrit S-H-A-R-E-D. Et je trouve que c'est une application hyper intuitive, très pratique, où justement, ça aide à la communication entre les parents. Quand il y a un changement d'heure de passation, on l'écrit. Il y a une notification chez l'autre parent. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une appli qui est très bien pensée pour les parents séparés. Et on peut faire un planning par enfant.
D'accord.
On peut faire un planning par famille, parce que mine de rien, il y a la famille séparée, mais il y a peut-être la famille recomposée à gérer aussi. Donc voilà, c'est le genre d'outil qui existe et qui vient aider vraiment à cette gestion et à l'intendance que ça peut avoir, parce qu'effectivement, bah, c'est toute une gymnastique hein, de se dire alors aujourd'hui je vais bosser, ah bah oui mais alors j'ai mon enfant à aller chercher à l'étude, ah bah oui mais alors demain je ne l'ai pas mais aujourd'hui je l'ai. Au début c'est un petit peu, faut apprendre aussi cette nouvelle vie en tant que parent.
D'accord.
Donc utiliser ce genre d'outil, ça peut être très aidant.
Oui. Bon, super, je ne connaissais pas mais très intéressant. Alors en préparant cet épisode, j'avais demandé sur les réseaux sociaux s'il y a des gens qui avaient des questions. Et j'ai eu une question d'une maman. Le cas d'un parent qui part à la naissance, à quel moment et comment j'en parle à mon enfant ?
Je pense qu'en fait, on en parle à l'enfant dès qu'on se sent d'en parler. C'est-à-dire que, et dès qu'on a besoin de lui en parler. C'est-à-dire que ça fait partie de son histoire. Et souvent, c'est difficile en tant que parent de se dire, enfin, de décider du moment opportun. En fait, il n'y a pas forcément un moment opportun pour que l'enfant soit en capacité de l'entendre. Oui, l'enfant, il va comprendre ce que ça veut dire, sûrement plus tard. Et oui, un bébé d'une semaine, il ne va pas forcément comprendre le sens de manière raisonnée de ce que ça veut dire que son papa soit parti. Mais ça va prendre sens pour lui d'aligner la manière dont vous lui en parlez. Est-ce que votre bébé capte de vous ? C'est-à-dire qu'il va y avoir un message cohérent. Parce que bah, peut-être que du coup, bah, la maman se sent particulièrement triste ou se sent particulièrement en colère. Ou peut-être qu'il va y avoir des discussions avec la famille ou avec les proches un petit peu houleuses en parlant de ce papa. Et tout ça autour du bébé. Donc, de dire au bébé tout simplement, bah, tu sais, là, on parle de ton papa, tu le verras peut-être jamais. Ou pas. Enfin, c'est aussi, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passera. Et des fois, on est plein de certitudes. Et puis, on a des surprises. Donc, c'est vraiment d'en parler comme du reste, j'ai envie de dire. Mais surtout que l'enfant, il entende un message qui soit aligné avec ce qu'il capte déjà. Moi, j'entends beaucoup de parents qui me disent « Mais de toute façon, à quoi ça sert de parler à mon bébé ? Il ne comprend pas. » Le bébé, il ne comprend pas le langage. Mais le langage, c'est 20% de la communication. le bébé, il est complètement centré sur le paraverbal, sur justement tout ce qui va être notre intonation, notre attitude corporelle quand on va lui parler, notre tonus musculaire quand on va l'avoir dans les bras et que le prénom de ce papa va être prononcé. Voilà, il va sentir cette tension. Donc, de lui dire, bah oui, là, tu sais, voilà, là, on est en train de parler de ton papa, je suis pas contente. Et peut-être que d'ailleurs, vous ne le nommerez pas ton papa, peut-être que vous le nommerez autrement.
Okay.
Mais en tout cas, il existe. Et puis, effectivement, c'est un élément qui fait partie de son histoire de vie. Et plus on attend pour en parler, en restant sur le fait que l'enfant va comprendre d'une manière vraiment raisonnable les choses, plus ça risque d'être un sujet tabou et de devenir difficile à le désamorcer. Et puis surtout pour l'enfant, du coup, il risque d'y avoir des moments d'incompréhension pour lui, d'une situation bizarre, d'un malaise. Et ça, c'est justement ce qu'on va essayer d'éviter.
Ok, ça marche. On va continuer sur la recomposition, mais d'abord je fais juste une toute petite pause. Cet épisode touche à sa fin. La deuxième partie sur la recomposition de la famille va suivre. Vous pouvez retrouver les références des livres et l'application citée par Angélique dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.